chanté pour le Seigneur, nous nous sommes exprimés en sa présence, nous nous sommes réjouis devant sa face, et croyez-moi, lui aussi a été content de nous voir, nous exprimer de la sorte devant lui. Alléluia. Il est notre Père, c'est notre géniteur spirituel. Nous n'avons que lui au ciel. Nous n'avons que lui dans tout l'univers. Nous n'avons que lui sur terre. Voyez, alors profitons de l'occasion pour l'encenser avec notre louange, notre adoration. Profitons de l'occasion pour faire monter vers lui nos prières comme des offrandes qui l'agréent. Voilà. Nous allons donc incliner notre tête dans la prière. Je voudrais demander à chacun de nous de se concentrer, de se focaliser sur le Seigneur alors qu'il s'apprête à nous parler. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps passé en ta présence, Seigneur. Une fois de plus, tu nous as fait la grâce. Tu nous as accordé le privilège de nous exprimer devant toi, de faire monter vers toi et ceux de nos cœurs, Seigneur, tous ces chants de louanges, tous ces chants d'adoration. Seigneur, tu nous as donné l'occasion de nous exprimer d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais, avant de pouvoir te donner l'occasion de nous parler, Seigneur, je voudrais te remercier de tout mon cœur. Merci pour cet amour que tu as, Seigneur, cet amour qui t'amène à user de patience envers chacun de nous, ô Dieu, et à tout faire pour que cette œuvre que tu as commencée dans chacun de nous, eh bien, puisse devenir de plus en plus une œuvre, Seigneur, parfaite, et ce, à la louange et à la gloire de ton nom. Oh, merci pour tout. Nous voulons te accorder ce temps pour que tu nous parles. Que ta parole soit pertinente ce matin. Que ce soit, Seigneur, cette lumière qui va éclairer nos consciences. Seigneur, cette huile fraîche qui va rafraîchir tout notre cœur, tout notre être intérieur, mais aussi cette parole qui est comme un baume guérissant pour nos corps malades. Donne-nous, Seigneur, de la manger. Donne-nous, oh Dieu, de la recevoir avec empressement, de lui réserver l'accueil qui lui revient dans chacun de nous. En même temps, Seigneur, nous voulons prier pour l'outil. L'outil, Seigneur, dont tu vas te servir, à savoir ton serviteur. Revêt-le de ta puissance, répands sur lui, Seigneur, ton onction, celle qui vient tout droit de ton cœur. Et donne-lui de proclamer ta parole, Seigneur, de ta part et de devant toi. Merci pour tout. Bénis également ton peuple. Que cette parole soit la bienvenue auprès de chacun de nous. Nous prions tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer toute une série de messages qui vont tous tourner autour de ce thème, à savoir « Dieu cherche un homme ». Alors, s'il y a des féministes au milieu de nous, qu'elles se calment. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme dans le sens générique du terme, à savoir l'être humain. Car Dieu cherche non seulement les descendants d'Adam, mais aussi les filles d'Ève. Alléluia! Dieu cherche un homme. Et nous allons faire notre lecture dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 22, à partir du verset 23. Ézéchiel 22, 23 à 30. Nous lisons. La parole du Seigneur ou de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la fureur. Ses prophètes conspirent au milieu d'elle, comme un lion rugissant qui déchire sa proie, il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses, il multiplie les veuves au milieu d'elle. Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces princes sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour accomplir leur spoliation. Ces prophètes, il devait y avoir un problème avec les prophètes, hein, vous voyez. Pour la deuxième fois, il interpelle les prophètes. Ces prophètes ont pour eux des enduits de badigeons, de vaines visions, des divinations mensongères Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel n'a point parlé. Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime l'immigrant comme contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, un homme qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais, je pourrais même ajouter, hélas, je n'en trouve pas. Dieu cherche un homme. Dans ce contexte de chaos généralisé, dans ce contexte de chaos, Dieu cherche un homme. Oui, Dieu cherche un homme. Nous sommes au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, quelque part à Athènes. Athènes, centre de la culture hellénistique, et du rayonnement intellectuel de son époque. Athènes, haut lieu de la philosophie grecque. Ville dont l'emblème, à savoir la chouette, cet oiseau nocturne rapace avec ses gros yeux, eh bien cet emblème d'Athènes deviendra plus tard le symbole même de la philosophie, car la chouette, eh bien pour diverses raisons, est associée à la raison, à la sagesse, mais surtout la chouette, contrairement aux autres oiseaux, la chouette se doit de se réveiller avant le crépuscule, avant que l'obscurité s'abatte, avant que les ténèbres envahissent la ville, la cité, eh bien la chouette se réveille. Oui, Athènes, ville célèbre par son aréopage, ce lieu où se côtoyaient des gens, des personnes appartenant à différentes écoles de philosophie, se côtoyaient, ils s'affrontaient dans de joutes oratoires. Là, à Athènes, rappelez-vous de l'apôtre Paul lorsqu'il est arrivé dans cette ville. La Bible nous dit qu'il est allé dans la synagogue. Et là, il s'entretenait régulièrement avec les juifs et les craignants Dieu, c'est-à-dire tous ces gentils, tous ces non-juifs qui avaient fini par croire dans le Dieu d'Israël. Il s'entretenait avec eux. Et puis, non seulement les Juifs, mais il sortait aussi, il allait sur la place publique, et là, il rencontrait les gens. C'est d'ailleurs au cours d'une de ses sorties sur la place publique qu'il rencontra des gens qui étaient des épicuriens et des stoïciens. Vous pouvez lire ça dans Actes 16. C'était donc les deux principales écoles de philosophie de l'époque. Les uns préconisait la jouissance, le plaisir comme étant le but même de la vie, de l'existence. D'autres prônaient la fermeté en face de la souffrance. Eh bien, ces gens ont écouté Paul. Ces gens ont été quelque part interpellés par le message de la bonne nouvelle. Ce message concernant la venue du Dieu vivant sur cette terre, sa mort à la croix et sa résurrection. Ils étaient tellement interpellés par le discours de Paul, c'était quelque chose qui était au-delà de leur conception philosophique, qu'ils ont fini par prendre Paul, par l'inviter à aller sur cette place célèbre qu'est l'aréopage. Et c'est là que Paul prononcera un discours merveilleux. Je vous encourage à lire ça dans Acte 16. Là, il va s'adresser à tous ces Athéniens et il va leur annoncer le message de l'Évangile. Gloire au Seigneur. Oui, dans cette ville d'Athènes, un jour, en plein midi, Monsieur Diogène, un philosophe très connu de son temps, eh bien, se promenait, une lanterne à la main, une lampe à la main, allant de rue en rue. Pourquoi ce philosophe, surnommé le cynique, avec son incorrigible mépris pour les richesses et pour les conventions sociales, l'histoire raconte qu'il demeurait dans un tonneau. Il méprisait tellement les richesses qu'il avait choisi de mener une vie plus que spartiate. Il vivait dans un tonneau. Comment, pourquoi ce philosophe contestataire errait-il ainsi dans les rues d'Athènes, en plein jour, avec sa lampe allumée, comme notre ami qui vient de passer? Eh bien, à qui lui demandait la raison de ce geste? Le curieux et bizarre promeneur se bornait à répondre: « Je cherche un homme. » Je cherche un homme. Mais avant lui, ce cri était déjà sorti du cœur du Seigneur. À un moment bien particulier de l'histoire de son peuple, à savoir le peuple d'Israël, dans un contexte de chaos généralisé, alors que la société était en pleine déliquescence morale, spirituelle, alors que les valeurs, eh bien, étaient en pleine érosion, toutes les composantes de la société, eh bien, étaient de plus en plus corrompues, même ceux qui étaient chargés de diriger le peuple, c'est-à-dire les politiques. Dans ce contexte généralisé de chaos, de décadence morale et spirituelle, le Seigneur va se lever de son trône et il va se mettre à chercher un homme. Pourquoi? Parce qu'il savait, et il sait très bien, que le péché, quel qu'il soit, finit toujours par rappeler le jugement de Dieu. Le péché, quel qu'il soit, mes amis, finit toujours par nous attirer la colère du Seigneur. Mais dans son amour pour nous, dans sa patience incommensurable, eh bien, il essaye, il cherche par tous les moyens de nous faire éviter ce courroux, cette colère terrible. Et c'est pourquoi il nous dit lui-même: « Je cherche un homme parmi eux. » Un homme qui se tienne à la brèche ou sur la brèche devant moi. Un homme qui se tienne. Et non pas qui se tient. Vous savez, la nuance se détaille en français. Si vous prenez ce verbe à l'indicatif, c'est-à-dire « je cherche un homme qui s'étient sur la brèche », cela suppose que sur la brèche, il y a quelqu'un. Mais c'est au mot du subjonctif. « Je cherche un homme qui se tienne. » Le Seigneur exprime sa volonté. Il exprime son souhait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne devant lui, personne sur la brèche qui puisse intercéder en faveur du pays, en faveur du peuple, afin que lui, dans son amour, dans ses compassions, puisse, eh bien, différer son jugement contre son peuple. Mais le constat est terrible, il n'en trouve pas. Un cri presque pathétique de la part du Créateur de toutes choses, de la part de celui, mes amis, qui peut tout, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit pour accomplir toute chose. Il a appelé les choses à la création, à l'existence, par sa simple parole. Il peut donc se passer d'un outil, d'un instrument, quel qu'il soit, pour pouvoir accomplir son plan, ses desseins. Et c'est là que nous réalisons, mes amis, la singularité de l'homme et tout l'amour que le Seigneur a pour lui. Cet homme qui, quel que soit son arrière-plan social, intellectuel ou autre, quelle que soit la couleur de sa peau, sa culture ou autre, cet homme a une valeur singulière, une valeur intrinsèque, parce que cet homme est à l'image du Créateur. Je cherche un homme et je n'en trouve pas. À cette époque-là, Oui, encore aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu cherche un homme. Dieu cherche des hommes. Des hommes qui puissent se tenir sur la brèche devant lui afin d'intercéder non seulement pour son peuple, pour son Église, mais aussi pour les nations. Car Dieu a un plan pour nos nations. Dieu a un plan pour tout homme, quel qu'il soit. Aujourd'hui encore, il cherche des hommes. Mais hélas, hélas, de plus en plus aujourd'hui, l'homme s'est dilué dans la masse. De plus en plus aujourd'hui, l'homme est entassé dans des gigantesques bâtisses. Regardez un peu partout à travers le monde. Il est noyé dans d'énormes projets, dans d'énormes entreprises. L'homme est de plus en plus embrigadé dans toutes sortes de processus politiques, financiers, économiques, sociaux ou autres. Et on assiste à ce phénomène paradoxal. Sur la terre, il y a de plus en plus d'êtres humains, mais il y a de moins en moins d'hommes. Voilà pourquoi Dieu en cherche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nous appartenons à son Église, celle qu'il s'est acquise par sa mort à la croix. Et en tant que disciples, nous avons reçu de sa part un mandat, une mission, qui consiste à aller pour faire avancer son œuvre en gagnant les âmes en lui, en proclamant son Évangile, en manifestant sa gloire. Et trop souvent, pour pouvoir assumer cette vocation de témoin, pour pouvoir annoncer l'Évangile, pour pouvoir permettre aux uns aux autres, eh bien, d'entendre le message de la grâce, souvent l'Église a cherché à trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, de nouveaux plans pour faire avancer l'œuvre. Et dans la plupart des cas, eh bien, l'Église a perdu de vue l'homme avec grand H. Lorsque le Seigneur a appelé ses premiers témoins, il leur a dit ceci: « Venez derrière moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Le Seigneur n'a pas dit « Venez, je vous apprendrai les différentes méthodes de pêche. » La pêche au harpon, la pêche à la ligne, la pêche au filet, etc. La pêche dans un lac, la pêche en haute mer, etc. Pas du tout, mes amis. Il les a appelés pour faire d'eux de véritables pêcheurs. Donc l'accent, selon Dieu, est mis sur la personne. Je cherche un homme. Le plan de Dieu, frères et sœurs, c'est de faire beaucoup plus de l'homme, beaucoup plus de lui, que de quoi que ce soit d'autre. Dieu ne met pas sa bénédiction sur un plan. Dieu ne met pas sa bénédiction sur une organisation. Même si l'organisation est importante, même si la stratégie est importante, Dieu met sa main sur les hommes chargés d'appliquer la stratégie, chargés de faire avancer l'œuvre en ayant adopté telle autre méthode. Car sans méthodologie dans la vie, on ne peut pas avancer. Mais le risque, c'est toujours d'investir plus dans les plans, dans les structures, dans les organisations, de trouver de nouveaux plans et d'oublier l'homme, car pour lui, l'homme reste prioritaire. Donc, mes amis, l'homme reste et demeure la méthode et la stratégie de Dieu. Alléluia. L'homme est la stratégie et la méthode de Dieu. C'est par l'homme, au travers de l'homme, qu'il répand ou qu'il veut répandre sa gloire sur cette terre. Alors que nous sommes à la recherche de meilleures méthodes, alors que nous sommes à la recherche de nouvelles stratégies, de nouveaux moyens pour essayer d'avancer dans la vie, pour essayer de faire avancer son œuvre, lui recherche de meilleurs hommes. Mes amis, si vous regardez à la parole de Dieu, vous allez tout de suite vous rendre compte que la Bible proclame la nécessité de l'homme dans le plan de Dieu. Il est au cœur du plan de Dieu et l'importance de cet instrument qu'est l'homme comme un canal au travers duquel, eh bien, il peut exercer son pouvoir sur cette terre, mais aussi répandre sa bénédiction sur son peuple. Tout ce que j'ai reçu, croyez-moi, je les ai reçus au travers des hommes. Il est vrai que certains interprètent très mal le fait que la Bible dise « Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme ». Attention, il faut replacer cet oracle dans son contexte. Tout ce que vous êtes, quelque part, vous le devez à Dieu, mais ce Dieu-là a utilisé des moyens humains. Alléluia. Vous voyez, mes amis, nous ne pouvons pas nous passer de l'homme. L'homme occupe une place importante. Et notre objectif devrait être d'investir plus dans l'homme que dans l'outil, que dans les moyens, que dans les méthodes. Car il n'y a rien qui puisse remplacer l'homme. L'homme est singulier. Ce qui fait la richesse d'un pays, eh bien, c'est son peuple. Vous pouvez avoir les meilleurs ordinateurs qui soient. Vous pouvez avoir autant de milliardaires. Si ces milliardaires ne sont que quatre sur une étendue comme celle de la RDC, eh bien la RDC serait un pays malheureux. Voyez, la richesse humaine est la plus grande richesse qui soit. Les sociétés occidentales sont confrontées à un phénomène majeur, lequel? Le vieillissement de la population. Un peu partout, non seulement en Occident, avec des pays comme l'Allemagne, où les filles font de moins en moins d'enfants, eh bien l'Allemagne a compris que si ça continue comme ça, elle qui est considérée et qui est le poumon économique, la locomotive de l'économie européenne, si ça continue comme ça, elle irait au-devant des grands problèmes. Vous comprenez pourquoi l'empressement qu'elle a eu pour accueillir les réfugiés venant de Syrie. Il y a aussi des intérêts mercantiles. Le Japon est confronté au même problème. Vous voyez, la population vieillit, mais elle ne se renouvelle pas. Oui, vous pouvez avoir les machines les plus intelligentes, les plus perfectionnées qu'ils soient, mais aucune machine ne peut équivaloir l'homme. Alléluia. L'homme reste l'homme et il occupe une place importante dans le plan de Dieu. Dieu a mis l'homme sur cette terre et il lui a donné toute la domination sur cette terre, sur tous les règnes, animal, minéral et autres. Et c'est par cet homme que Dieu voudrait bénir son peuple, bénir nos pays où qu'ils soient. C'est cet homme qui est appelé à être un canal, mes amis, pour la manifestation de sa gloire sur cette terre. Ce dont l'Église a besoin, aujourd'hui comme hier, ce n'est pas plus de techniques, plus de technologies, plus de nouvelles méthodes, mais ce dont l'Église a besoin, c'est plus d'hommes. Alléluia. Des hommes façonnés par Dieu, des hommes selon le cœur du Seigneur. Car c'est par et au travers de ces hommes-là que viendront la solution aux problèmes de l'humanité et aux problèmes de l'Église. Le Saint-Esprit ne se répand pas au travers de méthodes. Vous pouvez avoir les méthodes les plus spirituelles qui soient, les meilleures stratégies qui soient, mais croyez-moi, le Saint-Esprit ne se répand pas au travers de ces méthodes, mais il se répand au travers de sa méthode. Il utilise sa stratégie, à savoir l'homme et l'homme seul. Gloire au Seigneur. C'est avec l'homme, c'est par l'homme et au travers de l'homme que le Saint-Esprit accomplit des miracles. Donc, une fois de plus, l'homme reste et demeure la méthode par excellence du Seigneur. Reste la stratégie de l'homme. Il en a toujours été ainsi, et croyez-moi, il en sera ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout ce que nous avons, toutes ces révélations qui aujourd'hui font les délices de nos cœurs, cette révélation qui nous a permis de découvrir le véritable Dieu, tout cela, nous l'avons reçu par et au travers des hommes, oui ou non? Des hommes comme Moïse, des hommes comme Ésaïe, des hommes comme Ézéchiel, des hommes comme Paul, des hommes comme Jean. Ces hommes, eh bien, ont été des canaux entre les mains du Seigneur, à partir desquels il a répandu son huile, sa grâce, ses bénédictions sur l'humanité et en particulier sur son Église. Oui, Dieu cherche un homme et cet homme reste et demeure sa stratégie. Cet homme que Dieu recherche est un homme qui est appelé à être un tuyau d'or par lequel l'huile divine se répand sur son peuple. Il doit être non seulement un tuyau d'or, mais il doit aussi être un tuyau non obstrué, un tuyau qui permette à l'huile de se couler pleinement, sans empêchement ni perte. Oui, l'homme, encore l'homme, eh bien, il reste et demeure la méthode et la stratégie de l'homme, mais pas n'importe quel homme, comme nous le verrons plus tard. Comme Diogène avec sa lampe, sa lanterne, dans cette Athènes, dans cette ville d'Athènes, Dieu aussi est à la recherche de l'homme. Regardez, la première fois que le Seigneur intervient avec une promesse de salut, une promesse de rédemption, eh bien c'est lorsque l'homme et la femme, Adam et Ève, ont désobéi à son ordre, lorsqu'ils sont partis à l'encontre de son commandement. Ils ont méprisé la parole de Dieu, et résultat, eh bien, ils se sont placés eux-mêmes sous l'emprise du serpent antique, à savoir le diable. Ils sont devenus désormais esclaves du péché. Désormais, la culpabilité ronge et ronde leur cœur et leur conscience. Le bonheur s'en est allé. Ils tournent en rond, ils essayent par leurs propres moyens de trouver des solutions, de réponses à la situation terrible dans laquelle ils se trouvent, une situation horrible, jusqu'à ce que Dieu vienne, jusqu'à ce que Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il propose, mes amis, comme réponse, comme solution au problème de l'homme et de la femme, rongés par la culpabilité, esclaves du péché, désormais coupables, et se trouvant désormais sur une pente mortifère, les conduisant chaque jour qui passait vers la ruine et la destruction éternelle? Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, la Bible nous dit que le Seigneur a parlé, et quand il dit, Genèse 3:15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent antique. Alléluia. La postérité, un homme qui descendrait de la femme, serait alors la solution à la culpabilité universelle. Un homme qui descendrait de la femme et serait alors, ou sera alors, la solution, la réponse au problème de l'homme. C'est ainsi que plus tard, mes amis, en rapport avec cette promesse, plus tard, quelques siècles plus tard, dans une vision extraordinaire et glorieuse, le prophète Esaïe a vu cet homme naître et il s'est écrié, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Oui, un fils nous est né. C'est lui qui allait devenir la réponse à tous les pourquoi de l'humanité. C'est lui qui est la réponse à tous nos pourquoi. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, mes amis, au problème de l'homme, Dieu a trouvé l'homme parfait, lui-même saint incarné. Il n'est pas venu sous forme d'un ange, il n'est pas venu sous forme d'un archange, mais il est venu sous forme d'un homme comme vous et moi, né d'une femme, mais cependant conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'est cet homme-là, l'homme-Dieu. Quel paradoxe. Alléluia. L'homme, Christ, qui deviendra la réponse au problème de l'humanité. Mais avant la venue du Christ, la venue de ce Messie promis, de ce Dieu puissant, conseiller, admirable, prince de la paix, avant sa venue, la parole de Dieu déclare qu'il y eut un homme nommé Jean-Baptiste pour préparer la venue du Messie, pour préparer la venue de celui qui avait été promis. Il a fallu encore que Dieu suscite un homme. dans la personne de Jean, Jean le Baptiste, celui qui préparera le chemin du Seigneur, celui qui préparera son peuple à recevoir le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Prince de la paix, le Seigneur des Seigneurs. Mes amis, Dieu, en vue des temps difficiles qui s'avancent, ces temps terribles qui arrivent, Dieu cherche des hommes qui se tiennent sur la brèche et ce devant lui. Il cherche des hommes pour tout son peuple. Voyez-vous, où que l'Église soit, eh bien Dieu voudrait trouver des hommes pour être de bénédiction pour son peuple, des hommes pour son Église. Oui, Dieu en cherche. Il jette son regard à la borne. Il passe dans le rang avec sa lanterne allumée à la recherche de l'homme grand H. Il va dans d'autres assemblées, dans d'autres mouvements, à la recherche de cet homme selon son cœur. Il n'est pas à la recherche d'un surhomme qui, par son charisme extraordinaire, son charme extravagant, envoûterait le foule et les entraînerait à sa suite. Dieu n'a pas besoin de surhomme. Non, Dieu a besoin de l'homme. Alléluia. L'homme. Encore l'homme. Un homme disponible. Un homme prêt à le suivre où qu'il aille. Un homme qui se tienne sur la brèche devant lui. Paul, qui avait compris cette vérité, car lui-même ayant été l'homme que Dieu avait trouvé, le vase dont il avait besoin, un instrument pour l'annonce, la proclamation de son évangile aux nations, eh bien, Paul, qui a compris cette vérité, n'a pas hésité à exhorter, à encourager les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, en leur disant, « Soyez des hommes !» Oh, gloire à Dieu. Soyez des hommes. Cette église-là a été rongée par toutes sortes de vices, par toutes sortes de tares. Il y avait une telle impudicité qu'on n'en trouvait même pas en dehors de l'église. Alors qu'on sait très bien combien, mes amis, ces sociétés étaient gangrénées par l'immoralité, par l'impudicité, par toutes sortes de choses terribles. Mais voilà que dans cette église, qui avait reçu toutes sortes de dons spirituels, il y avait un homme qui vivait avec la femme de son père, incroyable. Oui, ça se faisait à Corinthe, dans cette église de Jésus-Christ. Dans cette église, il y avait beaucoup de désordre. Cette église était ballottée par différents courants qui se réclamaient, les uns de Paul, les autres de Pierre, les autres encore d'Apollos. Il y avait menace de division, etc. Et Paul leur écrit en disant, mais écoutez, soyez des hommes. Et encore aujourd'hui, croyez-moi, c'est le même message que le Saint-Esprit adresse à l'Église. Nous devons être des hommes. Mais la question, avant de terminer, car ce n'est qu'une introduction, par rapport évidemment à cette série de messages, mais la question, avant de terminer celle-ci, où Dieu peut-il trouver l'homme qu'il recherche? Où peut-il le trouver? Lorsqu'un hôpital voit le jour dans une ville comme la nôtre, eh bien, les promoteurs d'un tel projet vont vouloir avoir les meilleurs médecins qui soient, oui ou non? Eh bien, vous pensez qu'ils iront les chercher dans n'importe quelle école professionnelle ou autre? On n'en trouve pas, on ne forme pas les médecins dans n'importe quelle école. Il faut aller dans des facultés de médecine, voyez-vous. Et encore là, ça va dépendre d'une université à l'autre. Voyez, il y a des chasseurs de têtes. Je me souviens d'un frère qui est médecin, un frère rempli du Saint-Esprit, qui me disait l'autre fois que des chasseurs de têtes sont venus le trouver pour qu'ils quittent les hôpitaux où ils travaillent, aller travailler à Sarthe, ils m'ont donc vers Liège. Voyez? Eh bien, les hôpitaux cherchent le meilleur médecin, oui ou non? Donc, selon l'université dans laquelle on a été formé, selon la réputation, etc. Les ingénieurs, c'est la même chose. Il y a des écoles spécialisées dans la formation d'ingénieurs. Voyez? Et aujourd'hui, la chasse est aux meilleurs ingénieurs, surtout en aviation. Je me souviens que les avionneurs américains n'hésitent pas à aller chercher des ingénieurs à Toulouse, car les écoles d'ingénieurs français sont très réputées, du moins dans le domaine de l'aviation. Certains qui travaillent déjà, ils les débauchent pour les amener aux États-Unis, n'est-ce pas? Parce que ces ingénieurs sont passés par des écoles ayant une très très bonne réputation. Où Dieu peut-il trouver l'homme, grand H, qu'il cherche ou recherche? Eh bien, mes frères et sœurs, autant il y a des facultés qui forment les économistes, les juristes, les médecins, les ingénieurs, autant il y a des écoles spécialisées pour former des infirmiers, pour former des carreleurs, des plombiers, des ardoisiers, etc. Eh bien, Dieu a aussi son université. Alléluia. Dieu a son université. Cette université, c'est une petite école. Peu de gens s'y inscrivent. Très peu de gens terminent leurs études à son école. Mais alors, très, très, très peu. Dieu va chercher ses ouvriers formés, pas dans nos écoles bibliques, dans nos facultés théologiques, dans nos institutions de formation, quelles qu'elles soient. S'il veut des ouvriers, il va les chercher dans son école. Alléluia. L'école divine. L'université de Dieu. C'est là qu'il forme ceux qui deviendront plus tard des solutions, des réponses aux problèmes des autres. Dieu a ouvert cette école parce que ce n'est que dans cette école-là qu'il va trouver l'homme qu'il cherche. Alléluia. À l'époque d'Ézéchiel, il y avait des prophètes, nous l'avons lu. À l'époque d'Ézéchiel, il y avait des sacrificateurs, des gens qui faisaient partie du sacerdoce. À l'époque, il y avait des hommes politiques. Nous l'avons lu, mes amis. Mais quelle était la situation morale, spirituelle, religieuse? C'était la catastrophe, c'était le chaos. Vous voyez? Donc, le simple fait d'avoir des gens avec des titres ne suffit pas. Dieu cherche l'homme, cherche des hommes. Où peut-il le trouver? C'est dans son école. Voyez-vous? Et si vous voulez alors être cet homme qui devienne la réponse aux problèmes de votre famille, la réponse aux problèmes des Quinois, aux problèmes du Congo, aux problèmes du monde, si vous voulez être cet homme-là, mes amis, selon le cœur de Dieu, eh bien, soyez prêts à aller trouver une inscription dans l'université de Dieu. Où se trouve alors cette école divine? Il y a des écoles bibliques un peu partout dans le monde. Chaque mouvement, chaque dénomination au sein du christianisme a sa filière de formation, oui ou non? Il y a des écoles, des facultés de théologie, des écoles bibliques, des séminaires, tout est là. Voyez, vous pouvez aller n'importe où. Ici, chez nous, à Kinshasa, eh bien, ce ne sont pas les écoles bibliques qui manquent, encore moins des facultés de théologie. Vous pouvez aller un peu partout dans le monde, vous trouverez toujours ce genre d'école. Mais où se trouve l'école de Dieu? Quels sont les critères d'inscription? Puisque les études ne sont jamais gratuites. Parce qu'il faut que le corps professoral, le corps enseignant et para-enseignant puissent vivre. Et pour cela, il faut qu'il y ait un Minerval. Même si l'enseignement reçoit des subsides ou des subventions, mais quelque part, il y a toujours un Minerval. Et s'il y a un Minerval dans cette école de Dieu, est-il abordable à la portée de tout le monde? Ou il faille appartenir à une grande église comme la Borne pour pouvoir avoir la possibilité d'aller dans cette école? Où se trouve-t-elle, cette école? Et bien, suite à au prochain épisode, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Dieu cherche un homme, et cet homme, il ne peut le trouver que dans son institution à lui, dans son école de formation à lui, dans ce que je pourrais appeler l'école divine, l'université du Dieu vivant. Nous verrons où elle se trouve. Nous verrons comment prendre son inscription. Nous verrons combien coûte le Minerval. Nous verrons tout cela. Nous nous poserons toute une série de questions. Nous regarderons autour et alentour de cette réalité relative à l'école divine. Mais en attendant, nous venons de réaliser que l'homme et l'homme seul demeure la stratégie de Dieu, la méthode de Dieu. Au lieu de regarder au plan, à toutes sortes de structures, au comité, etc., vous pouvez avoir les meilleurs comités qui soient, les meilleures structures qui soient. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, mes amis, mais tant qu'il n'y a pas l'homme dans ces structures-là, dans ce comité-là, eh bien, rien ne marchera. Quand bien même ce serait des structures mises sur pied par les meilleurs leaders qui soient, les meilleurs spécialistes en gestion de ceci ou de cela, eh bien, cela ne marcherait pas. Car pour Dieu, la structure n'est pas une priorité. Car pour Dieu, l'organisation n'est pas une priorité. Car pour Dieu, les différentes méthodes arrêtées pour essayer de faire ceci ou cela n'est pas une priorité, même si la méthodologie a sa place. Pour Dieu, l'homme et l'homme seul demeurent sa méthode, sa stratégie, sa priorité. Alors nous allons prier, puis qu'il nous aide à être cet homme, cette femme selon son cœur, et à ne pas hésiter à nous inscrire à son école, la meilleure école qui soit. Père, nous bénissons ton saint nom. Comme au jour d'Ézéchiel, Seigneur, tu cherches encore aujourd'hui des hommes selon ton cœur, des hommes façonnés par tes propres mains, des hommes, Seigneur, prêts, ô Dieu, à te suivre où que tu ailles, des hommes ayant pour horizon ta personne et ton œuvre. Oui, tu es à la recherche de ces hommes. Aide-nous à être de ces hommes-là, Seigneur. S'il te plaît, quel que soit le prix à payer, que nous ne reculions jamais, car c'est la meilleure école qui soit. Et quand on en sort, ô Dieu, rempli de ta gloire et prêt pour être un outil entre tes mains pour l'embrasement de ce monde, de ce monde gangréné par le mal, de ce monde, Seigneur, avec tout cet art social et autre. Oui, aide-nous à rechercher cet homme. Merci, Maître. Nous voulons également, alors que nous sommes en ta présence, implorer ta grâce sur ce moment que nous avons toujours, ces moments qui sont donc destinés, Seigneur, à la collecte des offrandes et des dîmes. Que ça ne soit pas une occasion pour nous simplement de donner, mais que nous réalisions que ce geste a une grande portée, a une grande valeur à tes yeux, même si toi tu n'as pas besoin de tout cela, car tout appartient, l'or, l'argent, l'univers, tout entier t'appartient. Mais cependant, tu voudrais nous faire participer, Seigneur, à ta joie. Cependant, tu veux faire de nous des partenaires dans ton œuvre, dans ta moisson. Alors bénis tous ceux qui généreusement vont te donner. Mais bénis également tous ceux qui voudraient bien le faire, mais qui ne le peuvent pas, Seigneur, parce que ton chômage, parce que n'ayant pas d'emploi. Oh, s'il te plaît, souviens-toi d'eux et trouve-en un, Seigneur, pour qu'enfin, un jour, ils puissent aussi expérimenter la joie qu'il y a à donner plus qu'à recevoir. Bénis ce service au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.